Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, une bonne année 2015 que nous pouvons nous souhaiter mutuellement. Et pour vous qui vous êtes pour une bonne partie un peu des commencements en théologie, des commençants, pas tous, mais un certain nombre, je vous souhaite surtout de garder le goût de l'intelligence de la foi. C'est vraiment central, je pense, aujourd'hui, d'avoir le goût d'une intelligence qui devient missionnaire en même temps. Alors, je pense que vous retenez quand même, je dirais, au moins du premier trimestre, il nous reste encore deux séances, je dirais plusieurs points. D'abord, ce que c'est la théologie. Je rappelle un peu cette définition, faire de la théologie, c'est participer activement au mouvement même de la tradition chrétienne, en la recevant, ça c'est le premier geste de toute tradition au sens paulinien du terme, et en la réinterprétant pour, avec le critère, pour permettre à l'homme d'aujourd'hui de faire une expérience authentique de Dieu. Vous vous rappelez, c'était un peu le commencement, fin septembre dernier, au début octobre, je ne me rappelle plus. Et sur cette définition se greffe ensuite, je dirais, une définition plus précise de la théologie fondamentale, avec ses trois tâches, ou fonctions, comme on dit aussi. D'abord la tâche herméneutique, qu'est-ce que c'est cette tradition chrétienne ? Donc il faut se reposer cette question que nous avons fait dans toute la première partie du cours, en montrant d'emblée qu'elle est proposée, cette tradition. Elle est révélation proposée, autorévélation, évangélique, mystère, proposée par Dieu lui-même, de telle manière que la liberté humaine peut la recevoir. Donc, dans la proposition elle-même, on est dans un schéma de communication, la recevabilité est immédiatement intégrée. Donc, ça, c'est la première fonction. La tradition chrétienne, c'est quoi ? Donc, nous avons beaucoup passé de temps avec cette fonction, fonction herméneutique. Et est venue ensuite une deuxième partie que nous avons terminée la dernière fois. Pourquoi y adhérer ? Mais la deuxième question du pourquoi est intégrée déjà dans la première, la tradition chrétienne c'est quoi ? C'est-à-dire proposition recevable, et on peut comprendre recevable comme crédible. Et vous rappelez, j'ai dit ça à plusieurs reprises, il n'y a pas d'argument contraignant. Elle est proposée à notre liberté comme étant crédible. Et la crédibilité, où est-ce qu'elle se situe ultimement ? L'argument de sainteté, c'est-à-dire c'est celui qui l'incarne, cette tradition par excellence, donc Jésus, le Saint de Dieu. Donc cette unité, cette concordance entre l'Évangile, ce qu'il propose et ce qu'il est, c'est cette unité-là qui est la crédibilité, l'argument de sainteté. Et nous entrons maintenant, nous avons déjà commencé un peu la dernière fois, dans la troisième partie de toute théologie fondamentale, qui sera plus brève, c'est-à-dire le comment. Et là encore, j'ajoute tout de suite, le comment y adhérer est évidemment impliqué dans le pourquoi y adhérer. Et le pourquoi est adhéré, est impliqué dans le qu'est-ce que c'est la tradition chrétienne. Le comment, évidemment, je dirais, c'est entrer progressivement dans cette sainteté même, je dirais, du Christ, et qui pose d'une manière très radicale, au fond, la question de la crédibilité. Non pas maintenant de la révélation en elle-même, non pas de la tradition chrétienne en elle-même, jésuanique, paulinienne, mais la crédibilité de ceux et de celles qui la proposent aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église. Et qui est aussi en même temps, évidemment, l'obstacle de la crédibilité. Donc ça, c'est maintenant la troisième partie que je vais vous proposer, la transmission apostolique de la foi. Donc l'apostolique, j'aurais pu dire aussi ecclésiale, de la foi, discernement catholique ou œcuménique, on va beaucoup parler de l'œcuménicité avec le Concile Vatican II, de l'identité chrétienne. Donc là, on est passé du quoi au comment. Voilà, donc ça c'est la troisième partie de la théologie fondamentale. J'avais dit aussi que la fonction épistémologique, on l'utilise un tout petit peu, par exemple dans la deuxième partie du cours, quand on a parlé de raison. J'ai longuement parlé de la raison, de foi et raison. Là, évidemment, on a exercé la fonction épistémologique, mais cette fonction épistémologique, elle relève, je dirais, de cours ultérieurs, notamment en cinquième année. Vous aurez aussi un cours d'épistémologie théologique pour ceux qui suivent l'ensemble du parcours. C'est déjà un métadiscours plus spécialiste. Voilà, donc je dirais, pour reprendre très très brièvement, à la fois l'enjeu de l'ensemble du parcours, ce que j'aimerais bien vraiment que vous saisissiez progressivement maintenant un peu pendant les deux dernières séances, mais peut-être aussi en reprenant l'ensemble du parcours, l'unité interne finalement de l'ensemble. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a évidemment une culture qui est proposée, une culture théologique avec tous les documents que vous avez et qu'il faut travailler, qu'il faut retravailler. Mais l'essentiel, c'est d'entrer réellement dans ce processus même d'intelligence et dans son unité interne. Alors, comment est fait, si vous voulez, je dirais, la troisième partie? Il y a trois chapitres que j'introduis très brièvement, donc à la page 42. Il s'agit ici, si vous voulez, dans cette troisième partie, pourrait-on dire de la demonstratio catholica. Vous vous rappelez de ce terme. Et évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus parler de demonstratio catholica, c'est-à-dire de prouver, comme au XIXe siècle, que l'Église catholique, c'est la seule vraie. Vous voyez, on est loin, d'une certaine manière, de cette bastion catholique qu'on trouve au Concile Vatican I. Mais aujourd'hui, l'ecclésialité, finalement, est nécessairement œcuménique. Depuis Unitatis Redintegratio, ce texte du Concile Vatican II de 1964. Et nous allons voir assez rapidement que le problème n'est pas uniquement le débat entre l'Église catholique et d'autres églises, mais sous-jacent à cela, il y a la question au fond de la crédibilité, c'est-à-dire la cohérence, je le redis encore une fois, maintenant il s'agit de l'Église, entre ce que l'Église propose et la manière de le proposer. Et on voit bien avec un pape comme le pape François, comme la manière de proposer est aussi important que ce qu'il propose, tout simplement l'Évangile. Mais une manière évangélique de proposer l'Évangile, c'est ça l'enjeu. Une manière évangélique de proposer l'Évangile. C'est ça, au fond, la question de la crédibilité de l'Église. Voyez, l'enjeu n'est plus tel ou tel point de doctrine, d'abord, même s'il y a des différences doctrinales, mais la forme ou un certain style chrétien. Ce style est lié au discernement de l'identité chrétienne dans l'histoire, qui pose évidemment des règles de discernement. Et on va beaucoup parler de ça dans le deuxième chapitre. Dans le premier chapitre, il s'agit de discerner un peu quelle est la crédibilité ou le problème de crédibilité de nos églises aujourd'hui. Et ensuite vient dans un deuxième chapitre les questions, les règles de discernement. Parce que vous l'avez bien compris dès le départ du cours, si cette identité de la tradition chrétienne est historique, on ne peut pas la dire de la même manière dans telle ou telle culture et à telle ou telle époque. Donc elle est à rediscerner, elle est donnée une fois pour toutes dans le Christ et avec les apôtres, mais elle est à rediscerner continuellement. Et donc, il faut des règles de discernement. Et voyez, les trois termes, écriture, tradition et autorité de discernement, relèvent de cette régulation. Et donc, c'est ça que je vous expliquerai un peu dans le deuxième chapitre, qu'on va largement avancer aussi aujourd'hui. Et ensuite vient un problème clé, sans doute le problème clé de l'avenir. C'est le troisième chapitre, pour une transmission créatrice de la foi apostolique. Si le christianisme est vraiment pentecostal, c'est-à-dire au sens de Luc 2, c'est-à-dire il n'y a pas de langue unique ou de culture unique, mais la tradition chrétienne doit s'inscrire dans la multitude des langues, chacun parlant sa propre langue, et ils s'entendent. Alors, le problème sera comment va se construire progressivement sur notre globe un christianisme réellement catholique, universel, c'est-à-dire gardant en son sein une pluralité de cultures. Et ça, c'est pas si aisé que ça, parce que ça veut dire, au fond, en chaque culture, comme a dit un jour Michel de Certeau, dans chaque culture, le christianisme doit se réinventer. Il faut discerner sa figure propre. Et voyez, c'est là où les trois règles, écriture, tradition et autorité de discernement, se rendent importants. Voilà donc les trois chapitres, et viendra à la fin une brève conclusion un peu pastorale. Alors d'abord maintenant le premier chapitre, c'est le problème donc de la crédibilité de l'Église. Et donc viendront, si vous voulez, déjà un peu les trois thèses ici, qui font les trois sous-titres. Donc il s'agit d'abord de discerner réellement les obstacles à la crédibilité de l'Église aujourd'hui. Ensuite vient la question que je viens d'évoquer. L'identité chrétienne, elle est donnée une fois pour toutes, évidemment, mais dans la mesure où elle est historique, elle reste toujours de nouveau à discerner. Selon la définition de la théologie, recevoir activement la tradition et la redonner pour que l'homme d'aujourd'hui, le New-Yorkais, voilà, celui qui habite à Recife, je ne sais pas où, puisse effectivement faire une expérience authentique de Dieu. Donc l'historicité, une identité chrétienne sans cesse à discerner, et ça nous conduit de l'ancienne demonstratio catholica vers une théologie fondamentale nécessairement œcuménique. Alors les obstacles. Donc si on commence avec les obstacles, je dirais les plus classiques, c'est évidemment les divisions. Et vous allez voir dans les quelques tirets, les quatre tirets, je vais suivre simplement ce qu'on appelle les quatre notes. Les quatre notes de l'Église, unité, sainteté, apostolicité, catholicité. Voilà, je crois en Église, une sainte, catholique et apostolique. Je change un tout petit peu d'ordre, vous allez voir pourquoi. Et donc le premier obstacle, c'est la division, mesurée par rapport à la prière sacerdotale du Christ chez saint Jean, Jean 17. Et il y a beaucoup de divisions, mais il y a les deux, je dirais, historiques les plus importantes, 1054, donc la séparation des deux poumons, comme on dit parfois, l'Orient et l'Occident, et ensuite 1517, voilà la naissance du luthéranisme et ensuite du protestantisme plus largement. Voilà, et aujourd'hui, il faudrait rajouter ce qu'on appelle parfois la nébuleuse pentecôtiste, etc. Donc, les divisions. Donc, ça, c'est le premier problème. Et du coup, comment dire, on discerne mieux aujourd'hui. Au fond, le problème, c'est que tous les chrétiens n'ont pas la même conception de l'unité. Et c'est ça, le problème. Alors, quelle conception de l'unité? Alors, le Concile Vatican II s'est attaqué à cette question D'abord, je dirais une première fois, dans Lumen Gentium numéro 14. Alors, si vous regardez à la page 112 de votre dossier, on va maintenant utiliser un tout petit peu les derniers textes de votre dossier. Donc, vous avez le célèbre deuxième chapitre de Lumen Gentium sur le peuple de Dieu. Le premier chapitre, c'est le mystère, le mystère de l'Église, avec son numéro 8, auquel nous reviendrons un tout petit peu plus tard. Mais vous avez ici, à partir de la page 102, le numéro 13 et le numéro 14, et le numéro 15, 16 et 17. Toute la dernière partie, je vous invite à lire ça. Peut-être vous l'avez lu aussi, vous allez le lire avec Anne-Marie Petitjean, qui, je pense que cette année, fait le cours d'ecclésiologie fondamentale. Voilà. Alors, le 14 vous définit d'abord ce que c'est un catholique. Alors là, il faut bien respirer, c'est-à-dire c'est le paragraphe 2. Parce que on peut se demander si on correspond tous à cette définition. Sont incorporés, vous voyez, c'est la notion d'incorporation, corps du Christ, incorporation, pleinement à la société de l'Église, ceux qui ayant l'esprit du Christ, accepte intégralement son organisation et les moyens de salut qui lui ont été donnés et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, donc vous avez toujours deux éléments ici qui sortent de ce qui est visible, l'Esprit Saint et la communion ici. Sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. Ouf, voilà. Donc ça fait beaucoup. Je n'entre pas dans un détail, le cours d'ecclésiologie détaille ça. L'incorporation, maintenant vient la phrase la plus importante. L'incorporation à l'Église, cependant, n'assurerait pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. Oui, oui, oui. On peut en être de corps sans en être de cœur, et le critère est simple, l'agapé, la charité. 1 Corinthiens 13. Donc ça, c'est une formule de saint Augustin. Et je dis tout de suite, si on peut en être de corps sans en être de cœur, on peut en être aussi de cœur sans en être de corps. Et voyez ce qui est expliqué dans la suite du texte, c'est-à-dire, au fond, l'ecclésialité, l'appartenance, est à la fois une affaire corporelle, le baptême, évidemment, les sacrements, l'Eucharistie, la scène, la pénitence, etc., mais c'est en dernière instance quelque chose qui ne se laisse pas déterminer. Donc j'aime bien citer ici Jeanne d'Arc pour faire comprendre la chose. La célèbre formule pendant le procès à Beauvais. Êtes-vous dans l'état de grâce? Et Jeanne d'Arc répond, si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je n'y suis pas, qu'il m'y mette. Donc là, c'est encore très augustinien. Notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. Tant que nous sommes dans l'histoire, voilà, il y a à la fois certitude et incertitude. Et du coup, la suite, tous les fils de l'Église, et on ne dit pas ici l'Église catholique, doivent d'ailleurs se souvenir que la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils n'y correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, c'est pour ça qu'au début de l'Eucharistie, nous avons cette confession de nos péchés. Ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. Voilà donc, voyez, elle est complexe, cette définition de l'appartenance ecclésiale. Et ensuite, vous voyez, vient le numéro 15, les liens de l'Église avec les chrétiens non catholiques. Il va paraître ici un terme, élément. Vous voyez, avec ceux qui étant baptisés portent le beau nom de chrétien sans professer pourtant intégralement, là c'est le terme intégralement, plus haut c'était pleinement incorporé, la foi où sans garder l'unité de la communion sous le successeur de Pierre, l'Église s'est unie pour de multiples raisons. Et ensuite viennent donc tous les éléments, comme on dit. Voilà. Donc là, c'est au fond le premier texte œcuménique et ensuite les non-chrétiens. Donc vous avez les juifs, les musulmans et vous voyez, à la fin, on parle même de ceux qui ne croient pas en Dieu. À ceux, c'est la page suivante, le numéro 16, à ceux-là même qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais travaillent non sans la grâce divine à avoir une vie droite, la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, je dirais, c'est une nouveauté, c'est quelque chose d'ancien, mais une nouveauté à Vatican II, donc une appartenance, je dirais, dégradée, si je puis dire, à l'Église. Alors, Unitatis Red Integratio, le texte que j'ai déjà cité, donc vous le trouvez à la page 101, va beaucoup plus loin. Parce que dans ce texte, vous voyez, dans le numéro 11, on introduit deux choses. On introduit premièrement l'idée d'hiérarchie des vérités. Vous voyez, tout d'un coup, vous voyez, la notion de doctrine est sortie de son monolithisme. J'ai expliqué cette notion dans la première partie du cours. Et on parle ici de fondement de la foi chrétienne. Et donc, il y a quelque chose qui est absolument central. Et la théologie fondamentale doit discerner cela. Fondement, c'était ma première partie. Et alors, il y a d'autres choses qui ne sont peut-être pas secondaires, mais qui sont seconds, et il y a une hiérarchie de vérité. Donc, je reviens à la page 101, dans le numéro 11, dans Unitatis Red Integratio. Alors, le troisième paragraphe, surtout. En outre, dans le dialogue œcuménique, les théologiens catholiques, fidèles à la doctrine de l'Église, en conduisant en union avec les frères séparés leurs recherches, voyez, donc, ensemble, théologie fondamentale œcuménique se fait ensemble. Leurs recherches sur les divins mystères doivent procéder, et c'est la première chose qui est dit, vous voyez, c'est la cohérence entre la manière de procéder et ce qu'on cherche. C'est là où il y a le critère stylistique. Doivent procéder avec amour de la vérité, charité et humilité. Et il s'agit de recherche, il ne s'agit pas de dire « nous possédons la vérité », il s'agit de la rechercher ensemble. En exposant la doctrine, ils se rappelleront qu'il y a un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique en raison de leur rapport différent avec les fondements de la foi chrétienne. Vous voyez, l'Église vient que dans ma troisième partie, la théologie fondamentale. L'Église ne vient que dans la quatrième semaine des exercices spirituels de saint Ignace. Elle n'est pas au point de départ. Au point de départ, c'est l'évangile de la sainteté de Dieu. J'ai beaucoup parlé du décentrement de la tradition chrétienne par rapport à ça. Voilà, donc ce point est tout à fait essentiel. Ainsi sera tracée la voie qui les incitera tous. Vous voyez, vous retrouvez ici le terme, les gens de la voie, dans l'acte des actes des apôtres, avant qu'on nous appelait des chrétiens, qui les incitera tous par cette émulation fraternelle à une connaissance plus profonde et une manifestation plus évidente des insondables richesses du Christ. C'est la terminologie d'Éphésiens 3, 8. Vous pouvez marquer ça. Donc, c'est ce texte qui a dirigé le concile, c'est-à-dire tous sont en voie vers le Christ. Et voyez, à ce moment-là, la question de l'unité se pose d'une manière un peu différente. Elle est déjà à la fois donnée et elle est devant nous. Elle est devant nous. Et donc, on ne peut plus faire de la théologie catholique, je dirais de manière insulaire, particulière, mais une théologie est nécessairement œcuménique. Discerner l'identité chrétienne ensemble. Alors, de là, le chemin n'est pas très loin vers la deuxième note, vous voyez, vers la sainteté. Si la forme de la recherche de la vérité est importante. Donc, avec amour de la vérité, avec charité et humilité. Si la manière de la chercher ensemble est importante, nous sommes déjà sur le plan de la sainteté et du lien entre l'unité, vérité et sainteté. Et sainteté. Il n'est certainement pas de l'ordre de la sainteté d'imposer à autrui ce que je crois être la vérité. Certainement pas. Voilà. Donc, on ne peut pas les séparer les deux. L'Église est sainte, c'est l'affirmation traditionnelle, si vous voulez, je dirais, de l'Église et de l'Église catholique, depuis le symbole de Nicée, de Constantinople. Une sainte, voilà. Alors, la tradition luthérienne a introduit ici, à la suite déjà de saint Augustin, une distinction, parfois comprise comme une séparation, entre d'un côté l'Église spirituelle et de l'autre côté l'Église charnelle. L'Église charnelle étant l'Église institution, qui peut changer complètement selon les cultures, les pays, qui est totalement faillible, et l'Église spirituelle qui naît au fond et qui renaît au moment où les fidèles qui sont sous la chair entendent la parole de Dieu, la voix de Dieu. L'Église creatura verbi, comme disait Luther. L'Église, c'est la créature, la création de la parole, du verbe. Et puisque le verbe, il faut l'entendre, la foi vient de l'écoute. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le kérigme. Et on a regardé un peu Luther dans la première partie. Donc l'Église spirituelle, c'est celle-là. Et du coup, le catholicisme a beaucoup, beaucoup insisté, notamment à Vatican I, et dans l'encyclique Mystici Corporis, 1943, de Pie XII, sur la visibilité de l'Église. Alors, Lumen Gentium, numéro 8, et voyez, on revient ici un tout petit peu, c'est le même dossier, donc à la page 101, vous l'avez aussi, a tenté de trouver une solution, sainteté et non-sainteté. Et voyez, cette solution est encore de l'ordre un peu d'un compromis. C'est le paragraphe 3 du numéro 8. Je vais vous le lire. C'est un texte très important. C'est la fin de du premier chapitre de Lumen Gentium sur l'Église mystère. C'est la fin. Et c'est ici, si vous voulez, que l'Église mystère commence à atterrir, pardonnez-moi cette formule, c'est-à-dire c'est l'Église historique. Et l'historicité de cette Église est ensuite traitée dans le deuxième chapitre sous le terme « peuple de Dieu » à partir du numéro 9. Ce numéro 8 est très important d'un point de vue œcuménique et a été réactualisé par le pape François. Et vous allez voir pourquoi. Le chapitre, le paragraphe 3, et il a été largement rédigé par le groupe l'Église des pauvres à Vatican II, avec le cardinal Lercaro, avec Domel d'Arcamara, Recife, etc., etc. Et c'est un groupe qui est devenu le groupe de l'Église des pauvres à partir de 1962, à la fin en décembre, et c'est un groupe de 500 évêques à peu près, qui le 7 décembre 1965, un jour avant la fin du concile, sont descendus dans une des catacombes, je ne me rappelle plus, ils ont célébré, et ils ont fait un vœu de pauvreté, et parce qu'il s'agit ici de ça. Mais comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Église, elle aussi, est donc appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Vous voyez, il y a une analogie ici entre le Christ, la sainteté du Christ, liée à sa pauvreté, et l'Église. Le Christ Jésus, qui était de condition divine, s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave. Pour nous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Ainsi, l'Église, qui a cependant besoin pour remplir sa mission de ressources humaines. Donc il y avait quelques évêques allemands qui ont dit, mais il faut maintenir quand même les pieds sur la terre, on a besoin de quelques ressources. Voilà, non, c'est pas faux. N'est pas faite pour chercher une gloire terrestre, mais pour faire éclater aux yeux, par son exemple aussi, l'humilité et l'abnégation. Vous voyez, on revient au Christ. Trois fois l'analogie. Le Christ a été envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, donc le messianisme du Christ. Le 4, guérir les cœurs meurtris, chercher et sauver ce qui était perdu. De même, l'Église enveloppe de son amour tous ceux que la faiblesse humaine afflige. Bien plus, dans les pauvres et les souffrants, elle reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Ça, c'est très intéressant. Il y a une inversion qui apparaît ici, pour la première fois. Regardez bien, voyez, elle ne se tourne pas vers les pauvres pour les soulager d'abord. Oui, c'est dit aussi, mais elle reconnaît dans les pauvres l'image de son fondateur. Voyez, et dans Gaudium et Spes, vous avez ce même mouvement d'inversion, qui nous guérit contre un faux paternalisme. Elles s'efforcent de soulager leur misère, et en eux, c'est le Christ qu'elle veut servir. Et maintenant vient le mais, la différence. Mais tandis que le Christ saint, innocent sans tache, n'a pas connu le péché, venant seulement expier les péchés du peuple, l'Église, elle, qui enferme, voilà la formule de compromis, l'Église, elle, qui enferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et à poursuivre constamment son effort de pénitence et de renouvellement et unitatis redintegratio dira même de réforme. Donc à la fois sainte et toujours à purifier. Et c'est presque une formule luthérienne. C'est là où là le compromis. Le simul justus et peccator de Luther, c'est-à-dire l'homme, Luther parle de l'homme, est à la fois juste et pécheur. Et nous trouvons ici quelque chose appliqué à l'Église, est à la fois sainte, et en même temps sans cesse appelée à se purifier, à se renouveler, et même à se réformer, et unitatis integratio, prendre la forme, vieille formule, ecclesia semper reformanda, l'Église toujours à réformer historiquement. On voit bien qu'en 2000, ce paragraphe est devenu très important dans l'acte de confession des péchés de l'Église. C'est Benoît XVI qui a voulu ça, il n'était pas encore pape, et donc c'est devenu l'acte de Jean-Paul II, et on voit bien avec les affaires de pédophilie, après à quel point, je dirais, ce texte ici est devenu prophétique et tout à fait décisif. Voilà, donc, on va de l'unité, l'Église est sainte, la solution proposée par Lumen Gentium 8 au paragraphe 3, je viens de la proposer. Alors on va plus loin. À l'arrière-plan de la question de la sainteté de l'Église est la question finalement plus fondamentale, voyez, on va un peu par fourrage en profondeur, c'est la question de la correspondance entre ce que l'Église transmet et sa manière de le faire, finalement. C'est ça la question. Et finalement, est-ce que l'Église accepte réellement, ça c'est l'enjeu de Evangelii Gaudium, premier chapitre, à se décentrer. Elle n'est pas là pour elle, l'Église. Elle n'est pas là pour elle. Lumen Gentium et Christus, c'est le Christ lui-même qui est la lumière des peuples. Et l'Église est décentrée, tournée vers le Christ, vers la sainteté, qu'elle désigne, voilà, celle du Christ, et vers les nations, vers les peuples auxquels elle doit annoncer l'Évangile. Donc le décentrement de la tradition apostolique par rapport à l'histoire de la sainteté au sein même de l'humanité, cette sainteté anonyme dont j'ai beaucoup parlé. Elle est orientée vers cela, décentrée. Et voyez, ce point est tout à fait essentiel parce que c'est ici que se lie unité, apostolicité, sainteté et apostolicité. On peut même parler d'une apostolicité sainte ou d'une sainteté apostolique. Le décentrement qui est au cœur même. Et on a vu ça, si vous voulez, dans les récits évangéliques. Voyez, les apôtres sont institués pour être les bergers des disciples, pour que les disciples puissent s'orienter vers quiconque. Voyez, vous avez là ce mouvement fondamental de décentrement de la tradition chrétienne. Recevoir et la réinterpréter aujourd'hui pour que l'homme d'aujourd'hui puisse réellement faire une expérience évangélique de Dieu. De l'apostolicité, nous en venons donc maintenant à la catholicité, c'est-à-dire, au fond, je dirais, ce qui est le travail de deuil fait par le Concile Vatican II, grâce à la présence des frères séparés dans le Concile. Le travail de deuil, la latinité n'est pas la catholicité. Alors, on avait identifié après le Concile de Trente, pas Trente, mais après l'Église catholique et l'Église romaine. Elle est romaine, oui. Pierre, le siège de Pierre, n'est-ce pas? Comme dit saint Ignace d'Antioche, elle préside à la charité. Encore faut-il vraiment comprendre ce que cela veut dire. Mais la catholicité est infiniment plus large que la latinité de l'Église. Et donc vient ici tout le problème de l'inculturation dont je parlerai dans le troisième chapitre. Alors ce point que je viens de nommer, voyez, qui pose donc le problème de la créativité au sein même de la tradition chrétienne. Est-ce que tout ce que nous autres Européens, latins, ont inventé, il faut l'imposer aux Brésiliens, aux Argentins, aux Gabonais, aux Chinois, etc. Non, certainement pas. Donc la tradition est plus large. Et donc ça suppose le problème de la créativité au sein même de la tradition chrétienne. Tradition, c'est pas retour en arrière. C'est pas répéter. C'est le concept paulinien de la tradition. Je vous ai livré ce que j'ai reçu. Voilà. Aujourd'hui. Alors, on vient ici donc au deuxième point, une identité chrétienne sans cesse à discerner. Et si vous voulez, c'est là où apparaît le lien intime entre la révélation et l'Église. L'Église fait partie de la révélation, mais quelle Église ? L'Église fait partie de la révélation. Il n'y a point de révélation sans Église. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, si c'est impliqué dans ce cours depuis le début, si on ne peut pas séparer la proposition de la révélation et même l'autorévélation de Dieu de sa recevabilité et je dirais même de sa réception effective, la révélation n'existait plus dans l'histoire. Évidemment, les douze ont quitté le terrain sous la croix. Quelques femmes sont restées. Il y a eu même un traître au milieu d'eux. Tous se sont demandé, serait-ce moi? Mais bon, on a parlé la dernière fois, longuement l'avant-dernière fois, de la résurrection. Le groupe s'est constitué. Et il y a cette promesse, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et jusqu'à maintenant, depuis 2000 ans, on peut dire, ça s'est réalisé, jusqu'à maintenant. Il y a quand même la question, est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore de la foi quand il viendra? Donc vous voyez, il y a les deux à maintenir. Mais dès que je dis que la révélation n'existe qu'en étant reçue effectivement, sinon, elle serait disparue. Le Christ, ça serait quelqu'un crucifié, disparu de la circulation, un bip sur l'histoire, sur l'écran de l'histoire, et c'est fini. Donc l'évangile est annoncé effectivement aujourd'hui. Alors, vous voyez, il y a là apparaît le lien. Alors maintenant, on va l'argumenter un tout petit peu plus, vous voyez. Je viens de dire le centre de l'argumentation. Vous rappelez dans le chapitre, dans la première partie, chapitre 3, le point 4a, j'en ai deux fois parlé à la page 15 et la page 23 suivant. Donc, je vous laisserai chez vous quand vous relisez, c'est pour ça que j'indique les choses ici en gras, y revenir. Et je résume la chose ici. Donc, l'autorévélation, la mystérieuse autorévélation de Dieu comme évangile, vous vous rappelez, ça c'est l'essence du christianisme. Les trois termes clés, évangile, autorévélation, mystère, chez Paul déjà. La mystérieuse autorévélation de Dieu comme évangile a été effectivement reçue une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Mais elle reste à transmettre historiquement et culturellement. Et ça dure depuis 2000 ans. Mais ça doit continuer. Et donc le principe fondamental, c'est celui de la concordance. J'y reviens de nouveau. La concordance stylistique. La mystérieuse autorévélation de Dieu comme évangile et sa transmission historique et culturelle, on pourrait dire charnelle, parce que la révélation, c'est pas quelque chose de la tête, voilà. C'est des femmes et des hommes qui donnent toute leur existence, les tradentes, vous vous rappelez, de ce terme, voilà. Doivent concorder, ou autrement dit, Dieu seul livre autorévélation entre les mains des hommes. L'Eucharistie, c'est ça. Il se livre radicalement, totalement entre les mains des hommes. Il se transmet radicalement aux hommes. Il se livre donc à leur manière de le livrer. Ça, c'est l'Église. Leur manière de le livrer, de parler de Dieu, de mettre Dieu en scène par des images, etc., de célébrer des sacrements, c'est livrer Dieu d'une certaine manière aux êtres humains. Donc Dieu se livre à leur manière, à notre manière de le livrer aux autres, en se livrant à eux et au cœur de la violence historique. Parce qu'il le fait, le Christ, au cœur de la violence. Judas est présent, évidemment. Donc, au centre de l'autorévélation est le don de soi ou la sainteté. Le Dieu trois fois saint. Voilà, j'y reviens ici. Je viens de reprendre ce que j'ai dit à la page 15 et la page 23. Donc, c'est le cœur de la première partie du cours. Or, continuons un peu le raisonnement. Qu'est-ce qui s'est passé en Occident avec la modernité et maintenant avec ce qu'on appelle la postmodernité? Nous avons compris que cette identité chrétienne, la foi chrétienne c'est quoi? La tradition chrétienne c'est quoi? Ne nous est accessible qu'à travers un acte de discernement continuel. Ça c'est le point. Ça commence avec les divisions entre catholiques et protestants. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'identité chrétienne? Il faut la discerner. L'identité est à la fois donnée et acquise une fois pour toutes. Vous voyez, une fois que Dieu s'est donné totalement, il pourra pas, lui-même, il pourra nous pas nous dire, donner encore d'autres choses. Vous vous rappelez la formule de Jean de la Croix que je vous ai citée. Donc l'identité chrétienne est donnée et acquise une fois pour toutes, donnée, voilà. Et elle est toujours encore à recevoir et à redonner, ma définition de la théologie. Elle est donnée, elle est toujours encore à recevoir et à redonner, et donc à rediscerner dans telle ou telle situation culturelle. Mais depuis Jésus, on sait bien ce que c'est le mariage. Eh non. Saint Paul va recommencer. La chrétienté à partir du IVe siècle va recommencer. Le droit canonique de 1917 va recommencer. Casti Connubio 1930 va recommencer. Et le synode actuel va de nouveau recommencer. Et vous voyez quelle difficulté de dire dans notre situation culturelle ce qu'est le mariage chrétien. Toujours à nouveau à discerner. Voilà. Alors, j'explique en trois petits points, mais voyez, je suis en train de vous redire ce que j'ai déjà longuement expliqué. Donc, pour nous aider un peu à réintégrer les choses. La modernité nous a fait découvrir que la révélation de Dieu n'existe pas en dehors de sa libre réception historique. Dans les pays où elle n'est pas reçue, hop, il n'y a pas de révélation. Voilà. La paradosis, vous connaissez ce terme de Paul, hein, effectivement vécue, c'est ça la révélation. Le corps ecclésial de la foi, la communauté primitive, celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire la paradosis, le corps ecclésial de la foi, celui qu'elle est, la révélation, qu'elle reçoit et qu'elle se donne. Vous voyez, à la fois, ce corps ecclésial est la manifestation de la révélation, elle la reçoit sans cesse, mais elle se la donne aussi en la reformulant. C'est la seule trace de l'origine divine. On a ce chant, n'est-ce pas ? En nous regardant, voilà, on peut découvrir qui est le Christ. À distance, évidemment. Voilà. Donc c'est là où il y a le lien intime entre la révélation et l'Église. Si la seule trace historique de la révélation est sa réception correcte, voyez, je ne dis pas orthodoxe, j'aurais pu dire orthodoxe, correcte, authentique, ici et maintenant, elle est effectivement cette révélation, livrée, pardon, à la capacité plurielle des êtres de chair que nous sommes, à la recevoir en la réinterprétant continuellement dans tel contexte donné. Toute catéchiste qui a des enfants devant elle fait cela. Voilà. Elle réinterprète la révélation pour que les enfants puissent faire une expérience évangélique de Dieu. Voilà. Donc c'est une identité chrétienne sans cesse à discerner, à réinterpréter, et c'est là l'enjeu de la postmodernité. Donc il y a un lien, je termine par cette formule, de conditionnement mutuel entre identité et recevabilité, nous le savons depuis la première partie, la réinterprétation doit rendre possible la paradosis au sens paulinien du terme, c'est-à-dire le recevoir. Sans réinterprétation dans une culture donnée, l'expérience de livraison et de réception serait impossible. Et tant qu'on vit dans une culture latine unifiée, relativement unifiée, le problème ne se pose pas. Mais au moment où le christianisme devient mondial, œcuménique, le problème est là. De là résulte, alors là je vous lis aussi pour aller un peu plus vite, que l'Église, j'ajouterai volontiers peuple de Dieu, comme instance apostolique de discernement et de réinterprétation fait partie de la révélation. C'est-à-dire, en tant qu'instance de réinterprétation, de réception et de réinterprétation, elle fait partie de la révélation parce que sans cette réception active, réinterprétante, la révélation n'existe pas dans l'histoire. Voilà. L'Église, une sainte catholique et apostolique, est, dans son mouvement continuel de décentrement, la trace unique de la révélation. C'est la véritable difficulté qui se cache derrière les quatre obstacles de crédibilité exposés plus haut. C'est pour cette raison que les divisions de l'Église, l'absence d'unité, l'absence de sainteté apostolique, sa difficulté à accepter en son sein une pluralité culturelle, mettez un air, culturel, c'est juste aussi culturel. Absence de catholicité sont des obstacles majeurs à sa crédibilité et à celle de la révélation. Le critère ultime de sa crédibilité est en effet la concordance, je reviens de nouveau à mon dada, si je puis dire, entre la mystérieuse auto-révélation de Dieu comme évangile et la forme que prend sa transmission historique et culturelle. Alors, de là découle, dernier point, de là découle donc le passage de la demonstratio catholica, donc l'autodéfense de l'Église catholique, à vers une théologie fondamentale œcuménique. Alors, cherchez dans votre dossier rapidement, s'il vous plaît, la page 68. Voyez toujours ce même texte que je vous ai commenté déjà un certain nombre de fois, de Deifilius, et on va le trouver donc à la page 68, et vous trouvez là les paragraphes 5 et 6. Pour vous montrer ce que j'ai appelé tout à l'heure le deuil, vous voyez, ce qu'il n'en peut plus faire. Paragraphes 5 et 6, voilà. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et d'arriver à partager la condition de ses fils, personne jamais ne se trouve justifié sans cette foi, et personne, à moins qu'il n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin, n'obtiendra la vie éternelle. Donc, vous voyez, ça a été repris par Lumen Gentium 14 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est parfaitement juste, n'est-ce pas? C'est le premier paragraphe de Lumen Gentium 14. Pour que nous puissions, maintenant, vous voyez, satisfaire au devoir d'embrasser la foi véritable et de persévérer constamment en elle, Dieu, par son Fils unique, a institué l'Église, bien sûr, dire ça. Donc, je viens de le dire avec mes mots et dans un langage d'aujourd'hui, en parlant du lien intime entre révélation et Église, et l'a pourvu de marques évidentes de son institution pour qu'elle pût être reconnue comme la gardienne et la maîtresse de la parole révélée. Alors, quelles sont les marques? Unité, une sainte catholique, apostolique, une sainte catholique et apostolique, les quatre marques. Et maintenant, voyez le problème. Car c'est à l'Église catholique seule, et ici c'est l'Église catholique romaine évidemment qui est visée, que se réfèrent tous ces signes si nombreux et si admirables disposés par Dieu pour apparaître clairement la crédibilité de la foi chrétienne. Vous voyez ça revient au miracle, la prophétie dont on a parlé dans la deuxième partie. Bien plus, le point maintenant, l'Église, à cause de son admirable propagation, apostolicité, de son éminente sainteté, de son inépuisable fécondité en tout bien, à cause de son unité catholique, donc vous avez les quatre marques, et de sa solidité invincible, est par elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et un témoignage irréfutable de sa mission divine. Oui, ça fait trembler. Le « par elle-même » est le problème. Elle est par elle-même. Vous voyez, le problème qui émerge ici, vous ne vous êtes pas dans un discours décentré. Vous n'êtes pas dans un coup. Elle est par elle-même. Et à la limite, quelle que soit la révélation, quelle que soit, à la limite, non, je n'ai pas le droit de dire ça, mais il y a une tendance vers un ecclésiocentrisme. Et le deuil de Vatican II consiste, entre guillemets, à sortir de cet ecclésiocentrisme, l'Église. Voilà. C'est ça l'enjeu. C'est donc le par elle-même, vous voyez, par elle-même. Voilà donc ce texte qu'il fallait relire. Donc actuellement, le deuxième petit point, il s'agit donc de distinguer l'actuelle expérience de ce que signifient les notes, ce que je viens déjà de faire un peu, et l'argument historique en faveur de la fondation de l'Église par Jésus, par l'appel des 12, Pierre ayant une position particulière. Donc, vous voyez, il y a une confusion ici. Les quatre notes sont utilisées par Deifilius, mais aussi par Pastor Eternus, que nous allons regarder la prochaine fois, comme argument historique. Alors, il ne peut pas s'agir de cela. Alors, à Vatican II, il y a donc la prise de conscience du caractère inacceptable de l'ecclésiocentrisme. Et c'est Lumen Gentium 8, numéro 2. Donc, je vous revenais donc de nouveau à la page 101. Et vous avez donc de nouveau le numéro 8, ce texte très important. Et nous allons regarder le paragraphe 2. Vous voyez, c'est là où on sort pour la première fois de l'ecclésiocentrisme. C'est là l'unique l'Église du Christ dont nous professons, dans le symbole. Donc vous voyez, c'est l'Église telle qu'existe dans le symbole de Nicée et Constantinople. L'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia, et le texte reprend, à lui et aux apôtres, pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Vous voyez, on parle ici de l'Église telle qu'elle se trouve dans le symbole de Nicée-Constantinople qui reprend l'Écriture. Et maintenant, on touche terre, comme je reviens à ma formule. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, historiquement, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve. Ah, mettez entre parenthèses le latin « subsistit in ». C'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve, qu'elle subsiste. Donc, le Concile a évité ici le « est ». Le premier texte disait « Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, est l'Église catholique ». Et voyez, on serait de nouveau dans ce ecclésiocentrisme. Elle se trouve dans cette Église, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent, le même mot, c'est un peu, je dirais, dans la traduction, malheureusement, on ne voit pas ici le parallélisme du deux fois subsistit, subsiste. Pardon de Dieu, voilà, subsiste hors de ces structures, éléments qui appartiennent proprement, pardon de Dieu, à l'Église du Christ, et là on ne dit pas l'Église catholique, à l'Église du Christ, et qui appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Donc le texte dit clairement que l'unité catholique est devant nous. Devant nous. Et vous avez ici donc deux significations du terme Église. L'Église du Christ, elle est à la fois derrière nous, elle est devant nous, et elle subsiste dans l'Église catholique, mais pas uniquement, aussi ailleurs. Aussi ailleurs. Et du coup, vous voyez, dans cette tension, dans ce décentrement, s'inscrit évidemment l'idée de rénovation, c'est la suite du texte numéro 8, et de réforme continuelle, et la tâche œcuménique. Une identité ecclésiale conçue comme conversion, comme rénovatio, comme reformatio. Alors, le père Congar propose donc une autre traduction des quatre notes. Au lieu de dire une sainte catholique et apostolique, il traduit une église, je crois en église, en voie d'unification, en voie de sanctification, en voie d'apostolicisation, en voie de catholicisation. Et voyez, quelle distance par rapport à Vatican I ici. Voilà. Alors, vous voyez ici donc le cahier des charges d'une théologie fondamentale œcuménique, très rapidement, et on va faire la pause, une minute. Premièrement, le principe d'une théologie fondamentale œcuménique, donc page 44, est donné par la formule « Une identité chrétienne sans cesse à discerner ». Il s'agit de recevoir et de réinterpréter, et maintenant je mets en italique, ensemble. Unitatis Red Integratio 11, le texte que nous avons lu. Ensemble, la mystérieuse autorévélation de Dieu comme évangile. Ce qui implique, selon ce qui précède, que nous recevions ensemble la forme même de l'Église. Elle est déjà là et en même temps elle est devant nous. Deuxièmement, le problème que pose cette affirmation que je viens de faire comme principe, la forme crédible de l'Église n'est pas seulement objet de discernement, mais l'Église est aussi sujet apostolique du discernement de sa propre forme. Réfléchis beaucoup à ça. Voyez, à la fois nous réfléchissons à l'Église et nous sommes dans l'Église. Donc elle est à la fois en position de sujet et elle est restée en fait pendant 2000 ans en simple position de sujet. Et c'est seulement à partir de Vatican I que l'Église devient tout un coup objet, entre guillemets, de discernement. C'est inouï, ça. À partir de Vatican I, où on a déjà eu des textes sur l'Église qui n'ont pas été promulgués. Et c'est ça le problème. Toute la difficulté vient de cette double position qui peut se dégrader en ecclésiocentrisme, parce qu'évidemment, quand l'Église ne se regarde plus qu'elle-même, et c'était le risque des deux premières périodes, même les trois premières périodes de Vatican II, elle se regarde elle-même, continuellement, ecclésiocentrisme, sans altérité. Le critère est donc celui de l'altérité ou du décentrement. Discernez-vous avec d'autres la forme corporelle crédible dans telle ou telle situation culturelle, à la manière de l'Évangile, une Église décentrée, voilà, une Église décentrée vers les autres. Bien, je pense que vous avez compris que c'est une théologie fondamentale œcuménique. Maintenant, il reste à mettre ça en musique après la pause. Alors, on va entrer maintenant dans une deuxième étape qui se greffe sur la première qu'on vient de franchir. Tout à fait à la fin. Il s'agit donc, dans une théologie fondamentale œcuménique, de discerner ensemble, une figure, une forme corporelle crédible de l'Église dans telle ou telle situation culturelle à la manière de l'Évangile. Et donc la question qui vient maintenant, que j'avais déjà posée dans l'introduction, mais comment? Quoi? Pourquoi? Comment? Et donc un discernement, alors les Ignatiens ici le savent bien, mais c'est infiniment plus large que la tradition ignatienne, un discernement suppose des règles de discernement. Pas une loi, mais des règles de discernement. Parce que le discernement est un acte libre, à la fois individuel et collectif, qui n'est pas dicté par une loi, mais par des manières de procéder, des règles. Et cette régulation ecclésiale du discernement de l'identité s'organise autour de trois instances. L'écriture, la tradition, donc un terme qu'on a déjà beaucoup utilisé, et le problème de l'autorité du discernement. Dans toutes les églises, il y a des autorités. Alors, l'enjeu du chapitre est donc de vous montrer la mise en place de ces trois termes, de ces trois références dans l'histoire du christianisme et leur contestation. C'est une histoire complexe et je dis tout de suite ici dans l'introduction du deuxième chapitre, ce chapitre est en relation avec le chapitre 3 de la première partie. Vous rappelez peut-être, je vous ai proposé ici un long parcours historique sur la forme même de la foi. Kérigmatique, dogmatique, leur articulation. Il y avait Saint Irénée, on va revenir à ce texte. Il y avait Vincent de Lérins, autour de 430-432. Il y avait le 5e concile œcuménique. Vous rappelez de ça? 553. avec, je dirais, ce magnifique début qui retrace la tradition chrétienne. Il y avait le texte de Luther, Bultmann, et jusqu'à Vatican II. Donc, ce chapitre est historique. Le discernement commun œcuménique de l'identité chrétienne et de sa forme ecclésiale suppose nécessairement des règles de discernement dont il s'agit dans ce chapitre. Alors, il y a quatre étapes. Il y a d'abord la première étape historique, donc on revisite un peu les choses qu'on a déjà faites, mais sous cet angle précis, la mise en place du dispositif de régulation dans l'Église des Pères. Alors, c'est le canon des Écritures, d'abord, Écritures. C'est ensuite l'autorité des Pères. Vous vous rappelez, elle paraît clairement chez Vincent de Lérins et ensuite au Ve Concile œcuménique. Et les instances synodales et conciliaires. Avant le premier concile œcuménique et ensuite, évidemment. Alors ça, c'est la première étape. Et ensuite, vient une deuxième étape, à partir du XIVe siècle. Jusque-là, je dis, les choses fonctionnent vaille que vaille. Et vient alors une contestation des instances de régulation. Et va s'introduire ici un nouveau critère, le critère de la réforme. Le critère de la réforme, on verra ce que ça signifie. Ça commence déjà avec la réforme grégorienne au XIe siècle, déjà. Et à partir de ça, c'est l'appel à la réforme, continuellement. Et alors, troisième temps, donc à la page 46, interviennent les incertitudes de l'histoire. Vous voyez, à partir du XVIe, XVIIe siècle, je rappelle le tout premier chapitre, la première partie, on a parlé de l'histoire. Trulsch, etc. L'histoire va s'introduire et va produire des grandes incertitudes. Ah, le christianisme est donc historique? Ça s'est passé de cette manière-là, comme on dit toujours, vous voyez, toutes ces questions émergent. Et donc, apparaît ici un nouveau critère, à la fois la conscience, alors ça c'est chez Luther pour la première fois, d'une manière aussi explicite, la conscience comme critère, et à Vatican II sur la liberté religieuse, la conscience, et le magistère infaillible. Et donc ça va aboutir à la constitution Pastore Ternus de 1870. Et ensuite, quatrième et dernier point, les apports de Vatican II, et qui est une sorte de rééquilibrage et un retour, entre guillemets, parce qu'on ne veut jamais retourner, à l'Église des Pères, mais d'une nouvelle manière. Voilà. Alors, on va regarder ça un peu en détail. Donc, la première étape, et vous avez là les trois autorités, A, B et C, et d'abord la genèse du canon des Écritures. Je vous renvoie d'ailleurs, pardonnez-moi encore, la page 60, vous avez un schéma. Un schéma qu'on va regarder à la fin, qui récapitule, si vous voulez, un peu ce mouvement. Mais d'abord, comment se met en place finalement le canon des Écritures? Jusqu'à maintenant, je l'ai proposé. Dès le premier cours, j'ai cité l'Écriture. Dès le premier cours. C'est maintenant qu'il faut rendre compte de l'Écriture. Comment elle est née, l'Écriture? Et il faut bien dire, aujourd'hui, elle a une double fonction, c'est la deuxième partie du cours. Elle est à la fois objet culturel, classique, vous vous rappelez de ça, la Bible comme classique, école d'humanité, et Écriture sainte. Alors, donc la genèse du canon des Écritures. Alors, d'abord la mise en place d'un ensemble différencié de trois autorités dans les communautés primitives, à l'époque du Nouveau Testament, après la mort de Jésus, après la résurrection, immédiatement vous avez trois autorités qui se manifestent, et progressivement on va passer à l'écrit. Alors, quelle est l'autorité principale? L'unique autorité, c'est celle du Seigneur. C'est celle du Seigneur, l'autorité du Seigneur. Et vous voyez, je dirais, on met sous son autorité les paroles du Seigneur. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, par exemple, en 51, Paul se réfère à une parole du Seigneur, à des instructions de la part du Seigneur. Et Paul insiste toujours sur la présence immédiate du ressuscité, présence dans l'esprit, au sein même de la communauté. 2 Corinthiens 3, 17. Car le Seigneur est l'esprit, et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Magnifique citation. Début de la lettre aux Corinthiens. Donc, si vous voulez, ça c'est fondamental. L'autorité du ressuscité. Et il n'y a pas de pareil. Elle est sans comparaison, cette autorité. Sous l'autorité du Seigneur, on peut citer les Écritures comme parole du Seigneur, c'est-à-dire l'Ancien Testament pour nous, c'est les Écritures, on va y revenir. On peut couvrir sous son autorité les dictons de la sagesse populaire de son temps, par exemple Actes 20, verset 35, ces mots que le Seigneur Jésus lui-même a prononcés, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, ça c'est un dicton, mais que l'auteur des Actes met sous l'autorité de Jésus. Voilà, si vous voulez, donc ça c'est l'autorité principale. Alors ensuite, vous avez une deuxième autorité, mais deuxième, c'est déjà, vous voyez, de mettre un peu les choses en série. Je dirais plutôt une autorité dérivée. Une autorité dérivée, et c'est l'autorité des apôtres. Si le Seigneur est immédiatement présent par le pneuma dans la communauté, il se manifeste dans la communauté, l'apôtre le représente. L'apôtre le représente. Voilà. Alors, le concept d'apostolicité est évidemment extrêmement complexe. Il faut dire, par exemple, chez Luc, vous voyez, il est limité aux 12. Et avec la mort des 12, il n'y a plus d'apôtres, d'une certaine manière. Paul n'est pas apôtre pour Luc. Oui. Paul n'est pas apôtre pour Luc, parce que pour être apôtre, il faut avoir suivi le Seigneur Jésus depuis le baptême jusqu'à la mort et à la résurrection. Et les critères sont donnés dans le chapitre 1 de l'évangile, des Actes des Apôtres avec l'élection de Matthias. C'est là où vous avez les critères. Il faut remplacer celui qui a mal tourné. Voilà. Donc les 12. Alors Paul, il défend pendant toute son existence son apostolat. Moi, le dernier, l'avortant, il m'est apparu, moi aussi. Et voyez, là, c'est un autre critère. Le critère, c'est la résurrection, l'apparition du ressuscité. Et c'est entre, si vous voulez, les deux que se déploie la diversité du concept apôtre. Mais en dernière instance, c'est évidemment les 12. Les 12. Et chez Paul, il y a donc une conscience très, très, très nette, très, très, très précise de la sainteté de l'apôtre. De la sainteté de l'apôtre. « Je vous ai livré ce que j'ai reçu moi-même, j'aurais aimé me livrer moi-même. » Donc, vous voyez, ça c'est un deuxième type d'autorité. Et la troisième type d'autorité, c'est les Écritures. Selon les Écritures. Et les Écritures sont évidemment les Écritures juives de l'époque, qui sont en train de se constituer comme canon, qui n'existe pas encore comme canon. C'est extrêmement diversifié. C'est évidemment la loi, les prophètes et les autres écrits, mais c'est surtout ce troisième corpus. Vous avez suivi sans doute déjà le cours d'introduction au Nouveau Testament, à l'Écriture, donc c'est là où c'est beaucoup travaillé. Quel est selon les Écritures? Ça bouge évidemment beaucoup, mais la grande différence, si vous voulez, je dirais, la troisième classe d'écrits et les autres écrits, les psaumes, etc., est extensible. Et c'est dans le groupe des pharisiens que l'extension est la plus large. C'est là où entrent aussi les écrits apocalyptiques. Les écrits apocalyptiques. Et quand les deux communautés commencent à se séparer, au deuxième siècle, on a d'un côté le rabbinisme, le judaïsme rabbinique est en train de se fonder, donc sur la loi et sur la tradition orale, et de l'autre côté, la tradition chrétienne se fonde sur les écritures, mais surtout sur les septante, et avec une extension maximale, c'est-à-dire les autres écrits très largement représentés. Alors, quatrième élément de cette structuration progressive, il y a évidemment l'idée de la réception liturgique qui est tout à fait centrale. C'est-à-dire l'autorité du Seigneur Jésus, et on met dans sa bouche les paroles, et l'autorité des apôtres, et on met dans leur bouche aussi des paroles, je dirais, vont apparaître progressivement des collections de paroles, ce qu'on appelle la source Q, par exemple. Ces textes et ces paroles et ces hymnes, surtout les hymnes du Nouveau Testament, des psaumes, etc., tout cet ensemble de petits genres littéraires très différenciés, des confessions de foi. Pensez au texte que j'ai beaucoup cité, le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Vous voyez, première formule catéchétique et régulatrice, au fond, condition d'entrée dans le corps ecclésial. Toutes ces choses-là, ils sont reçues dans la liturgie. Donc la réception liturgique. Et la notion de réception devient tout à fait centrale. Une autorité qui n'est pas reçue n'est pas une autorité. Donc l'autorité n'existe que comme étant reçue. Vous voyez, on retrouve l'idée de recevabilité. Ça veut dire qu'elle doit se présenter de manière recevable. Et elle doit se présenter de manière recevable en renvoyant, en se décentrant vers la communauté d'un côté, et en se décentrant vers le Seigneur Jésus, qui est l'unique autorité, autorité dérivée. Et donc, elle doit être reçue. Et la place de la réception, c'est notamment la liturgie domestique. On a fait l'an dernier au RSR, à la recherche de sens religieuse, un premier numéro sur les communautés primitives, et on voit toute la vie associative des premières communautés. C'est des tout petits groupes, vous voyez. Donc c'est là où ça se constitue. Et apparaît tout d'un coup l'écriture, ou disons une nouvelle manière d'écrire, avec la question comment écrire. Une nouvelle manière d'écrire. Et ça c'est le dernier point de la mise en place. Qu'est-ce que c'est d'abord? Comment naît le passage à l'écrit? Vous voyez, c'est les lettres qui sont les premiers textes. Et ils ont une fonction extrêmement précise. Quand l'apôtre Paul se met à quitter une communauté qu'il a fondée, comment reste-t-il présent? Il est absent, il reste présent en écrivant une lettre. Donc vous voyez, la lettre écrite, elle n'est pas écrite d'abord, je dirais, pour entrer dans un canon des Écritures. On n'a pas du tout encore cette idée-là au premier siècle. Mais émerge la lettre aux Thessaloniciens en 51, qui est la première lettre. Paul a fondé une communauté et absent, il se rend présent par l'écrit. Et donc c'est une manière de continuer à exercer son autorité. Et en même temps, on va commencer à collectionner des paroles de Jésus. La source, il y a des hymnes, je disais les déjà, des formules catéchétiques. Et après 70 commence l'écriture de récits évangéliques, sans doute pour une partie aussi en opposition entre guillemets à Paul, parce que vous vous rappelez, Paul, il concentre le kérigme dans la mort et la résurrection du Christ. Le Christ selon la chair, je ne veux pas le connaître. Et donc on craint que l'itinéraire de Jésus disparaît. Et c'est là où elle invente le genre littéraire évangile, beaucoup d'évangiles, et de nouveau dans un processus de réception liturgique, certains vont tomber en désuétude. C'est comme nos livres de chants, il y a des trucs qu'on chante 10 fois, 100 fois, et après on oublie, et d'autres, ça traverse l'histoire. Parce que, principe de réception, les évangiles, ces textes produisent de la vie. Ils sont pas, avant d'être inspirés ou reconnus comme inspirés, ils sont reconnus comme inspirants. Et progressivement se forme un corpus, et alors avec une idée qui vient chez Paul. Paul est extrêmement méfiant par rapport à l'écriture, à l'acte d'écrire. À la fois, il a écrit, mais dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il s'insurge contre les lettres des trafiquants, apôtres trafiquants, c'est-à-dire qui font des lettres de recommandation, finalement, et c'est ça la menace, chacun de nous qui écrit risque finalement de s'exposer uniquement lui-même. Alors la lettre, au véritable sens paulinien, comme dit Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est vous. Vous êtes la lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais par l'Esprit Saint. Donc l'écriture dans le Nouveau Testament, c'est d'abord la fondation de communautés. C'est l'annonce de l'Évangile et l'écriture sur des tables de chair, jusqu'à ce que nous tous, dit 2 aux Corinthiens, le visage dévoilé, nous reflétons l'unique Seigneur, qui est le Seigneur Christ, dans l'Esprit. Et donc, la lettre, au sens d'écriture, par la main, vous voyez, sur le parchemin, n'est qu'un moyen, en fonction de fondation de nouvelles communautés. Ça, c'est sa première fonction, et la deuxième fonction d'écriture. Tout d'un coup apparaît l'idée que sans écriture, une durée n'est pas possible. Sans écriture, une durée n'est pas possible. Et d'une certaine manière, en écrivant les évangiles, les lettres, les communautés primitives et les apôtres prennent rendez-vous avec l'avenir. Ça, c'est, si vous voulez, je dirais, la mise en place très rapidement explicitée. Et donc, retenez surtout 2 Corinthiens 3, et j'ajoute encore, vous voyez, que depuis la figure du Christ, l'écriture est désabsolutisée. Même le diable peut citer l'écriture, nous le voyons bien, chez Luc. Vous voyez, le Christ lui-même chez Luc, c'est magnifique, il entend donc la voix. Il dit le psaume, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », après le baptême, en priant chez Luc, et ensuite donc vous avez la généalogie, à ce moment-là, fils d'Adam, fils de Dieu, et il entre dans le désert, et le diable cite l'écriture. Et le Christ entre dans une véritable joute avec lui autour de l'interprétation de l'écriture. Et à partir de ce moment-là qu'on comprend que l'écriture est à la fois nécessaire et totalement désabsolutilisée, ce que Paul va reprendre dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 3, la lettre tue, l'esprit vivifie. L'écriture ne peut pas avoir le dernier mot. Le dernier mot, c'est la présence effective du Seigneur. Nous tous, le visage dévoilé, voilà. Donc, voyez, c'est ça l'enjeu. Et donc, tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, on prend conscience qu'il faut de l'écriture. On ira jusqu'à dire qu'elle est inspirée. Mais en même temps, si elle n'est pas inspirante, et si elle ne disparaît pas dans ceux qui la lisent, qui la mangent, comme dit l'Apocalypse, ou comme a dit déjà Jérémie, qui la mangent, cette écriture, et qui deviennent écriture eux-mêmes, alors elle sert à rien. Elle peut tuer. Voilà donc le point essentiel. Essentiel et qui est donné dès le départ, je dirais. Déjà dans la manière de Jésus de se rapporter lui-même à l'écriture de son peuple. Et donc on va à ce moment-là de la constitution, de la lecture de ces textes, à la constitution d'une collection canonique de textes reçus. Et ça s'est grosso modo achevé avec saint Irénée. Voyez, dans le laboratoire des communautés primitives, sur les voies romaines, les apôtres et les itinérants circulent, ont dans leur sac à dos ce qu'ils avaient. Ils avaient les parchemins, les textes, les lettres. Ça circulait, on les lisait dans la liturgie, et certains on les éliminait et d'autres on les gardait. Et donc aujourd'hui, on découvre évidemment tout ce qu'on a éliminé, c'est-à-dire les apocryphes. Et à un moment donné, quelque chose s'impose par l'expérience à l'intérieur de la communauté. Une lecture répétée dans les communautés permet une sélection et un jugement, et ça passe évidemment par des longues hésitations. Et saint Irénée, c'est le premier témoin, parlant du troisième article de la formule trinitaire, consacrée à l'esprit, voici ce qu'il dit. C'est une connaissance vraie, comportant premièrement l'enseignement des apôtres. Donc vous voyez, l'enseignement oral continue, encore à la fin du deuxième siècle. L'organisme originel de l'Église, répandu à travers le monde entier. Qu'est-ce que c'est l'organisme originel de l'Église? On le lit dans le texte contre les hérésies que je vous ai distribué déjà à la page 65, me semble-t-il, peu importe. C'est-à-dire, c'est les communautés fondées par les apôtres, les grandes communautés. Et c'est le passage des apôtres qui disparaissent à d'autres qu'on appelle des épiscopoi. C'est-à-dire, on ne prend pas un terme religieux, évêque, épiscopoi, soyez les gardiens de mon troupeau, du troupeau, dit Paul dans les actes, dans son discours de revoir à Milet, les épiscopoi, voilà, ceux qui gardent le troupeau. L'organisme original de l'Église, répandu à travers le monde entier. La marque distinctive du corps du Christ consistant dans la succession des évêques, donc des épiscopoi, auxquels les apôtres remirent chaque Église. Quatrièmement, parvenu jusqu'à nous, une conservation immuable des Écritures impliquant trois choses. Un compte intégral, sans addition ni soustraction. Ça, c'est une vieille formule deutéronomiste qui vient du Deutéronome. Une lecture exempte de fraude. Donc, vous voyez, les textes en soi ne servent à rien, il faut encore bien les lire. Et en accord avec ces écritures, une interprétation légitime, appropriée, exempte de danger et de blasphème. Cinquièmement, enfin, le don suréminent de l'amour, plus précieuse que la connaissance, plus glorieuse que la prophétie, supérieure à tous les charismes, 1 Corinthiens 13. Voilà. Ah, c'est magnifique, ça. Donc, voilà, vous avez, si vous voulez, la première trace, c'est pour ça qu'on appelle aussi saint Irénée parfois le premier théologien catholique au sens universel du terme. Vous avez donc la trace d'une première règle, d'une première régulation. Alors, ensuite, vient... Évidemment, l'institutionnalisation synodale, qui est, si vous voulez, je dirais, ce qui relie, qui reprend ce que je viens de dire après saint Irénée. Alors, en Orient, c'est le canon 59 du synode de Laodicée, en 360, et la 39e lettre de Pâques de saint Athanase en 367. Vous voyez, là, on est déjà après Constantin. En Occident, le synode d'Hippone, Augustin est extrêmement important, 393. Les deux synodes de Carthage de 397 et 419. Trois synodes auxquels Augustin a participé. Donc là, on a une première liste des deux côtés, en Orient et en Occident, du canon des Écritures. Ensuite, ce sont les listes des conciles de Florence et du concile de Trente. Et je vous ai donné le texte à la page 65, c'est plutôt là, la page 65, tout à fait au début du cours, je vous ai donné le texte, le célèbre décret sur le canon des Écritures. Alors, je termine, vous voyez la première chose, la genèse du canon, des Écritures, les Évangiles, c'est la seule forme nouvelle créée par des communautés primitives. Des lettres, on a toujours écrit. Des apocalypses existent dans l'Ancien Testament et à l'époque intertestamentaire. Mais des évangiles, c'est une forme originale. Et c'est là où intervient la définition de l'évangile. L'évangile est un récit. Je vous redis pas ça, je l'ai souvent exposé, la définition du récit évangélique. Mais dès le départ, on a une tendance néfaste d'une certaine manière. À partir de 150, Tatien, on supporte plus la pluralité des évangiles et on en fait une harmonie entre les quatre. On a des problèmes avec la diversité, le pluriel, dès 150. Et vous voyez, ça traverse l'histoire du christianisme jusqu'à nos catéchismes, une histoire du salut, au lieu de donner aux chrétiens de lire, comme on le fait maintenant depuis Vatican II, une année Marc, une année Luc, une année Matthieu, Saint Jean est présent, et on s'affronte à la pluralité. Vous voyez, on revient de nouveau à la question. Ça, c'est donc, si vous voulez, la première ensemble, la première construction. Alors, j'en viens maintenant, si vous voulez, à l'autorité des apôtres. Alors, vous avez à la page 83, plutôt, le texte de saint Irénée, que je vous ai déjà cité un certain nombre de fois, qu'on a commenté. Et saint Irénée, c'est celui qui fait, au fond, pour la première fois, la distinction explicite, mais qui s'appuie sur une pratique, entre deux temps de l'Église. L'Église des apôtres, avec évidemment les controverses que j'ai évoquées tout à l'heure à propos du concept même d'apôtre. Qu'est-ce que c'est un apôtre ? On peut au moins retenir, vous voyez, un apôtre n'existe jamais seul. Collégialité, il n'existe jamais seul. Il y en a 12, voilà. Ou même Paul et ses compagnons, peu importe. Et deuxièmement, c'est toujours une autorité dérivée par rapport à l'unique autorité, celle du Seigneur, et une autorité diaconale au service de berger, au service de la communauté, avec le principe de réception. Ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, Irénée va donc parler dans ce texte que vous avez à la page 83 de la succession des presbytres. Là vient le terme presbytre qui va devenir prêtre, presbytre, les anciens. Donc vous voyez, nous, on a une conception sacrale du prêtre. Quand on entend prêtre, on entend sacerdoce. Mais l'Église primitive a choisi des termes profanes. L'ancien, presbytre. Voilà. La succession des presbytres, les évêques établis par les apôtres dans les églises. Alors très rapidement, on le voit déjà dans les actes, par imposition des mains. Par imposition des mains. Et c'est exactement ce qui est repris ensuite au 5e concile œcuménique, 553. Donc vous avez ce texte. Aussi, dans votre dossier, relisez-le, là où vous avez donc ces deux temps repris avec le principe de la succession des églises dans le temps et la succession apostolique. Alors, je disais déjà, cette autorité n'existe qu'au pluriel. Et donc vient rapidement la question, mais entre les autorités, entre les églises, comment se mettre d'accord ? Et apparaît tout naturellement l'institution synodale. Synodos, faire chemin ensemble, ou venir ensemble, se rencontrer. Et vous avez d'abord, je dirais, dès le deuxième siècle, des synodes locaux. En Afrique, surtout, l'Afrique a beaucoup, l'Afrique du Nord, une pratique synodale très développée, dont on a beaucoup de traces, à l'époque d'origine et même après. Mais au moment où l'Empire s'unifie, le synode devient tout d'un coup œcuménique, tous les évêques se réunissent, convoqués, non pas par le pape, Non, ça n'existe pas pendant les 8 premiers siècles, pendant le premier millénaire, convoqué par le pouvoir politique, Constantin, et ensuite par d'autres empereurs, mais il y a toujours un représentant du pape, un, deux ou trois légats, souvent un diacre d'ailleurs, souvent un diacre, et qui a l'autorité, et on ne peut rien faire contre lui, contre lui. Donc vous voyez, la présidence se marque de cette manière-là. Et au concile de Sardique, qui est peu connu, mais qu'on redécouvre à l'heure actuelle, en 362, je pense, ou 42, je peux me tromper là, pardonnez-moi. Donc, Rome devient pour la première fois cour de cassation. C'est-à-dire quand les églises, par des synodes, n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est par Rome qui va juger, mais qui peut casser un jugement et le faire rejuger. Donc, le passage au synode œcuménique après la paix constantinienne. Et va apparaître ici une distinction qui sera codifiée à Vatican I, mais qu'on trouve déjà en 451 au concile de Chalcédoine, vous voyez le grand concile christologique, le quatrième, vrai homme et vrai Dieu, de nature, sans confusion, sans séparation, c'est-à-dire la distinction entre un magistère ordinaire et un magistère extraordinaire. Qu'est-ce que c'est le magistère ordinaire? C'est-à-dire quand les apôtres ou les évêques ou les responsables de l'Église annoncent le kérigme, l'Évangile, et qu'il est reçu d'une manière ou d'une autre. Au jour le jour, dimanche après dimanche. C'est l'autorité dans l'Église, c'est la fonction. C'est-à-dire, qui fait que, comme dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, ce n'est plus ma parole que vous avez accueillie comme une parole d'homme, mais vous l'avez reçue comme la parole même de Dieu parce qu'elle fait son œuvre en vous. Ça, c'est la fonction de l'autorité. Annoncer l'Évangile. Ça, c'est ordinaire. Mais quand il y a des problèmes dans l'Église, et des grands problèmes qui peuvent arriver au IVe siècle, les problèmes christologiques, alors il faut des moyens extraordinaires. Et donc, un concile œcuménique. Et ça se fait tout spontanément, et c'est simplement à partir du IVe siècle qu'on commence à distinguer entre la confession des pécheurs, les pécheurs, attention, c'est pas ceux qui vont pêcher à la ligne, c'est des apôtres, ce sont les pécheurs, c'est-à-dire les simples, les apôtres comme simples, c'est-à-dire qui annoncent l'Évangile, ça c'est ordinaire. Mais il y a un problème, alors là, il faut un magistère qui intervient, et ça devient un peu philosophique, vous voyez, parce qu'on utilise des termes comme homoousios, de même nature que le Père, la nature divine, la nature humaine, ça devient un peu plus compliqué pour que, précisément, on dit quand même ce qu'il faut croire. Alors là, c'est extraordinaire. Alors, il y a une troisième autorité qui va apparaître avec le commonitorium de Vincent de Lérins. Regardez à la page 105 de votre dossier. Et qui sera codifié, vous allez la retrouver au 5e concile œcuménique. Donc là, de nouveau, dans le texte que je viens de citer, ce texte extrêmement important du 5e concile œcuménique que vous avez aussi. Mais on va regarder Vincent de Lérins. Vous voyez, toute simple question, on est sans doute juste après le concile d'Éphèse. Comment distinguer la vérité de l'erreur? Souvent, je me suis enquis avec beaucoup de zèle et d'attention. Vous voyez, il s'agit de règles de discernement auprès de nombreux d'hommes éminents par leur sainteté et leur savoir. Vous voyez, le savoir ne suffit pas à la sainteté. Je leur ai posé la question, existe-t-il une méthode sûre, une manière de procéder, générale pour ainsi dire, et constante, au moyen de laquelle je puisse discerner la véritable foi catholique avec les mensonges de l'hérésie? Et de tous, j'ai toujours reçu cette réponse, que si moi ou tout autre, nous voulions dépister la fourberie des hérétiques éviter de tomber dans leur piège et demeurer dans une foi saine, avec l'aide de Dieu, donc une foi juste, saine, orthodoxe, nous-mêmes, saines, avec l'aide de Dieu, saints nous-mêmes et entamés, il nous fallait abriter cette foi derrière un double rempart. D'abord, l'autorité de la loi divine, donc le décalogue, évidemment, oui, Deutéronome, je dirais, fais cela et tu vivras. Ensuite, la tradition de l'Église catholique, vous voyez, la tradition. Quelqu'un dira peut-être ici, puisque le canon des Écritures est parfait, et qu'il suffit amplement et surabondamment pour tous les cas, donc vous voyez, il existe déjà ici, évidemment, on est au 32 par là, alors évidemment, il existe déjà, on a les listes, etc. Quel besoin y a-t-il d'y joindre l'interprétation de l'Église? Précisément, voilà la formule, la profondeur de l'Écriture sainte fait que tous ne l'entendent pas dans un seul et même sens. Quelle sagesse! Évidemment, ça vaut pour tout texte. Les mêmes paroles sont interprétées par l'un d'une façon, par l'autre d'une autre. Et on pourrait dire, autant il y a de commentateurs, autant d'opinions. Novatien l'explique d'une façon, Sabellius d'une autre façon, Donat d'une autre encore, Eunomius, vous voyez, on a tous les hérétiques ici, Arius, etc., etc. C'est pourquoi il est bien nécessaire, en présence de tant d'erreurs, aux multiples replis, que la ligne d'interprétation, retenez bien cette formule. Voyez, il ne s'agit pas de détails. La ligne d'interprétation des livres prophétiques, ça c'est l'Ancien Testament, et apostoliques, c'est le Nouveau Testament, soit dirigée conformément à la règle, voilà la règle, du sens ecclésiastique et catholique. Alors maintenant, évidemment, qu'est-ce que c'est le sens ecclésiastique et catholique? Le sensus fidelium. Le pape François a repris ça fortement dans Evangelii Gaudium. Dans l'Église catholique elle-même, entendons ça, catholique au 4e siècle, 5e siècle, il faut veiller soigneusement à s'en tenir à ce qui a été cru partout, toujours et par tous. Car est véritablement et proprement catholique, comme le montre la force et l'étymologie du mot lui-même, l'universalité des choses. Et il en sera ainsi si nous suivons l'universalité, l'antiquité, le consentement général. Nous suivrons l'universalité si nous confessons comme uniquement vraie la foi que confesse l'Église entière répandue dans l'univers. Pas uniquement l'Église latine. Répandu dans l'univers. Jacques, je parle d'aujourd'hui, là. L'Antiquité, si nous ne nous écartons en aucun point des sentiments manifestement partagés par nos saints aïeux et par nos pères. Et vous voyez ça, c'est l'autorité des pères qui apparaît pour la première fois. Origène, Contesté, Athanase, Irénée, etc., etc. Le consentement, enfin, si dans cette antiquité même nous adoptons les définitions et les doctrines de tous, ou du moins, alors c'est très réaliste, de presque tous les évêques et les docteurs. Voilà donc la troisième autorité, et je vous fais relire, vous allez relire vous-même le texte du 5e concile de œcuménique. Voilà. Alors donc vous voyez, on est au 6e siècle, 553, et tout est mis en place, progressivement. Le canon des Écritures, l'autorité des apôtres et leurs successeurs, et l'autorité des pères, avec une règle du consentement universel, le sensus fidelium de tous. Alors, quelques mots pour terminer sur ce qui va arriver après. La contestation des instances de régulation à partir du XIVe siècle et le critère de réforme. Alors, il faut d'abord dire, et je l'ai déjà dit dans la première partie du cours, dans le chapitre historique, les contestations commencent immédiatement au IVe siècle. Vous n'avez jamais une situation idéale. Au IVe et Ve siècle, je vous renvoie aux pages 19 suivantes. À la fois, il y a les conciles, il y a la contestation. Vous avez quatre positions herméneutiques différentes et leur exploration revenant à la page 19, rapidement, où je voulais exposer quatre positions. Alors, où est-ce qu'ils sont? Tout à fait en bas. Première position, donc vous êtes tout à fait en bas en C. Le scepticisme par rapport à toute formule écrite. Chez Saint-Hilaire, ras-le-bol de vos multiples conciles, les formules, ça devient tellement compliqué, on se bat comme des chiffonniers entre chrétiens autour de formules. Scepticisme. La charité suffit. Ensuite, vous avez à Éphèse une deuxième position, 431, la lettre du symbole de Nicée suffit. On a retrouvé ça sous Jean-Paul II. Tout Vatican II, rien que Vatican II. Tout Nicée, rien que Nicée. Mais c'est impossible. Impossible. L'histoire continue. Et donc, tout d'un coup, la découverte que la lettre du symbole de Nicée est insuffisante face aux nouveaux défis. Il faut donc un développement. Et va intervenir ici la notion de développement et la distinction entre ordinaire et extraordinaire. Je suis à la page 20 en haut. Et on a même des gens qui vont parler d'un progrès de la révélation. Donc vous voyez, dès le départ, je reviens à la page 45, des positions extrêmement différentes, donc un système de régulation. Donc vous avez des conflits entre ces positions qui concernent quoi, finalement? Premièrement, l'acte de foi. Donc à la page 45, j'y reviens là. L'acte de foi. Première question, est-ce que cet acte de foi est toujours identique à lui-même? Ou est-ce qu'il y a un développement de l'acte de foi? Ou une fois le Nouveau Testament achevé, ça ne bouge plus. Voyez, un Joachim de Flore, par exemple, au XIIe siècle, dira, il y a l'âge du Père, il y a l'âge du Fils, il y a l'âge de l'Esprit. Et quand on sera devenu du bon chrétien, on n'a plus besoin du passé, mais on va devenir des charismatiques, voilà, qui n'ont plus besoin de la tradition, qui sont en relation immédiate avec Dieu, et on trouve, je dirais, de la nébuleuse évangélique. Donc il y a une foi plus parfaite. On a ça déjà au IVe siècle. Et si on regarde, non pas uniquement l'acte de foi, mais on regarde les formules écrites, symboles, définitions, images, représentations, est-ce qu'il y a des développements? Deuxième problème, les uns disent il y a un développement, les autres disent il n'y en a pas. Tout en se mettant en place au moment où paraissent ces divergences herméneutiques, le dispositif de régulation les provoque. Vous avez à la fois un dispositif de régulation qui se met en place et on découvre en même temps que ce système de régulation ne règle rien. Les divisions continuent. Il ne peut pas les réguler. Comment sortir du conflit? Juste quelques instants. Au XIVe siècle, vous voyez, dans quelques siècles après, où on a vécu avec écriture, tradition et magistère, autorité des pères, etc., il y a une secousse incroyable qui va traverser la chrétienté. Le grand schisme de l'Occident, 1378-1417, c'est-à-dire la chrétienté se paye trois papes en même temps. ce qu'on appelle l'exécrable trinité à l'époque, dans le peuple. Il fallait des juristes de Paris pour dire « seul un concile peut nous en sortir », le concile de Constance, au nord des Alpes. Il y a un des trois papes qui est venu qui s'appelait Jean XXIII. Oui. Il a pris après 15 jours son cheval avec quelques gens de son cour. Il est parti de l'autre côté du Rhin, s'est installé à Schaffhausen dans un presbytère et il a fulminé le concile de Constance qui ne s'est pas laissé défaire. Heureusement. Après, on n'a plus osé de choisir le nom d'un pape Jean. Il fallait Jean XXIII. Pour dire cette histoire-là est finie, je m'appelle Jean XXIII. Il était historien, il connaissait cette histoire. Donc vous voyez, c'est la crise totale des représentations de la foi. Sont toutes éprouvées comme fragiles, qu'il s'agisse de l'image de la majesté divine, remplacée progressivement par l'image du crucifié, ou des figures prestigieuses du pouvoir spirituel discréditées par le grand schisme et les divisions antérieures. La fiabilité des institutions chrétiennes est vraiment mise à l'épreuve, complètement. On n'imagine plus ça au XXe, XXIe siècle, quand une chrétienté se paye trois papes. Vous voyez, la réforme luthérienne se greffe évidemment là-dessus. Donc, émerge ici, et peut-être un peu comme aujourd'hui d'une autre manière, l'exigence évangélique de réforme. Et cette émergence de l'évangile, non pas uniquement sur le plan individuel, mais collective, une réforme collective, une église toujours à réformer, devient le principe fondamental, à la fois pour s'en sortir, évidemment, du grand schisme. Donc finalement, en 17, on va lire Martin V, d'une manière juste, les cardinaux. Et donc, une réforme va timidement commencer. Mais en même temps, on a un nouveau principe ici qui va s'ajouter au système des autorités que je viens de déployer jusqu'à maintenant. Donc, on verra la suite de cette histoire extraordinaire la prochaine fois. Et j'espère pouvoir terminer tranquillement, quand même, avec une conclusion. Ce sera notre dernière séance. Voilà, bonne semaine.